Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 25 septembre 2021, 135e émission, Germain, quand même.
Bonjour. Alors, Antoine.
Salut. Fait que quelques actualités avant peut-être de faire un retour sur le salon du véhicule électrique qui était là en fin de semaine dernière. En rafale, des nouveautés qui ont été officialisées. Là, Civic à Hayon, on connaît les prix, on sait quand ça arrive.
Oui, effectivement, donc Civic 2022 dans sa version à Hayon. Prix de départ à 28 000 $, en plus les frais de transport et préparation à 1 700 $. Donc, autant te dire que la nouvelle Civic à Hayon, elle coûte 30 000 $. Donc,
oui, puis j'ai vu des nouvelles passer à l'effet que la nouvelle Civic Hatchback était moins chère que l'ancienne.
Ben oui, parce qu'on avait éliminé des versions d'entrée de gamme. Donc, elle était à 30 400 $ pour 2021. Mais c'est pas. C'est pas exactement ça. Et pourquoi j'insiste sur l'idée de parler du prix de la nouvelle Civic, parce que dans la tête de bien des gens qu'on côtoie au quotidien, une Civic en bas de 20 000 $, ça existe encore. Des gens ont payé ça, une Civic 17, 18, 19, 20 000 $, il y a à peine quelques années, ouais. Mais cette voiture-là, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Une Civic, prix de base, transport, préparation inclus, ouais. C'est plus de 26 000 aujourd'hui, ouais. Et c'est le véhicule le moins cher vendu chez Honda, ouais. Parce qu'il n'y a plus de fit et parce qu'un HR-V, ça coûte un peu plus cher que ça aussi. Alors...
Il y a comme un nouvel apprentissage.
Je vais inventer un mot, là, oui. Mais l'abordabilité chez Honda est oui. Moindre qu'à une certaine oui. Époque.
Donc, il y a comme un apprentissage, une mise à jour qui doit se faire là, dans la réflexion et la tête des consommateurs parce que ça coûte cher, une Civic, maintenant.
Puis je me permets de te dire
et ça baissera pas.
la Civic de nouvelle génération,
oui.
On n'en voit pas tant que ça.
On en voit, mais pas beaucoup.
Quand la nouvelle Civic arrivait sur le marché, c'était la folie dans le passé. Là.
Oui.
Il y en avait partout, ça oui. Se multipliait. Là. Mais là, c'est pas exactement le cas. Autre nouvelle qu'on a annoncée, Ford Bronco dans une édition Raptor. Oui, on travaille donc, déjà sur une édition plus performante du Bronco qu'on connaît déjà.
C'est pas nécessairement une très, très grande surprise parce qu'on sait très bien que chez Ford, on veut capitaliser sur le nom Bronco. Hein. On a déjà deux modèles de la famille Bronco. Et le nom Raptor résonne aussi énormément chez Ford. Donc, on va proposer une version Raptor du Bronco. C'est le chef de la direction de Ford, là, Jim Farley, qui en a fait l'annonce. J'oserais dire de manière subtile hein, sur les réseaux sociaux parce que, on voit un coin d'aile, un coin de capot du Bronco Raptor, mais sans plus. Donc, ce sera à suivre là, dans les prochains mois. J'ai l'impression qu'on va nous faire languir là, encore pas mal avec cette version-là.
Bon, une autre bonne nouvelle, par contre, c'est que ceux qui pensaient attendre très longtemps avant de voir leur batterie de Chevrolet Bolt remplacée, ben, ça va se faire peut-être un peu plus vite qu'on pense, comme quoi Chevrolet prend le taureau par les cornes et essaie de régler le problème le plus rapidement possible.
Oui, on est très... je sais que c'est un terme peut-être un peu trop utilisé ces temps-ci, mais on est très proactif chez Chevrolet. Et ça, dès l'émission du rappel, on a eu des développements à chaque semaine. Bon, la semaine passée, il y a eu un développement dans le sens où il y a une 13e Chevrolet Bolt qui a pris en feu, mais ça, c'est une autre histoire. On apprenait la semaine dernière que GM rentrait dans les installations chez LG pour s'assurer d'un certain contrôle de qualité. Et là, ben, cette semaine, on apprend que dès le mois d'octobre, et ça, ben, c'est la semaine prochaine, hein, ça s'en vient vite, GM procédera au remplacement de batterie pour la Bolt. Donc voilà, une autre étape dans la bonne voie.
Bon, ben parlant de Bolt, écoute, cette voiture-là était quand même du salon du véhicule électrique de Montréal où il y aura eu plus de 25 000 visiteurs sur 3 jours.
Une petite baisse par rapport à l'édition précédente, mais considérant que c'est le premier salon de la province, peu importe le domaine, là, ben, on s'entend, il n'y a pas eu le salon de la mariée non plus, ni de l'habitation.
Moi,
là,
je considère qu'il n'y a pas eu de baisse parce que, un, il faisait extrêmement beau durant tout le week-end. Alors, il y a des gens qui ont fait, on va profiter d'une des dernières belles journées.
Pour aller aux pommes.
Bon, c'est ça. Et il y en a d'autres qui ont fait, as-tu vu le bordel autour du stade olympique? Je m'embarque pas là-dedans.
L'accès au stade était pas nécessairement très évident. Le tunnel était fermé pendant la fin de semaine. C'est certain que c'est pas...
Il y avait rien pour les aider. Non. Malgré ça, ils ont fait plus de 25 000. Il y avait du monde, puis c'était une clientèle. Moi, on dit dans l'industrie une clientèle qualifiée, c'est-à-dire une clientèle curieuse, intéressée, une clientèle d'acheteurs aussi.
Oui, mais en même temps, fallait être motivé là, pour se rendre, tu l'as dit. Le coût d'entrée, bon, c'est pas gratuit, ce salon-là. C'est 20 $ de stationnement. Donc, pour une famille de 4, ça fait une activité relativement dispendieuse. Donc, il faut être assez sérieux dans sa démarche. Mais oui, effectivement, des gens très curieux, relativement motivés à emprunter le virage vert. Et c'était un beau salon, somme toute.
Oui, absolument.
Des belles attractions. La Volkswagen Beetle de Saint-Hubert nous a bien fait sourire, mais des voitures plus consommateurs étaient...
Ben, nous a fait bien sourire. En fait, moi, j'ai, pour avoir discuté avec celui qui l'a développé, Guillaume André, écoute, c'est toute une, pièce. Alors, c'est une voiture qui a coûté plus de 100 000 $ à mettre sur la route.
J'ai pas de misère à l'imaginer un seul instant.
Elle a à peu près 100 km d'autonomie. Elle a une batterie de Chevrolet Volt. Elle a un moteur de Tesla Model 3. Elle a une suspension indépendante à l'arrière. Le châssis a été retravaillé.
Un beau mélange, là.
Frein à disque aux quatre roues pour une Beetle de 1967 aux couleurs de Saint-Hubert avec un klaxon qui nous chante
la ritournelle des rôtisseries.
Exactement.
Là.
Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympathique. Je pense que c'était un des highlights du salon. Évidemment, il y avait des belles voitures d'exception, là, les Porsche Taycan, les Audi e-tron GT RS qui étaient là.
La voiture chinoise tant attendue, le VUS, c'est-à-dire présenté par Imperium Motors qui était sur place.
Exactement, et que j'ai pu conduire au lendemain de la fermeture du salon. Tu étais avec moi, Germain.
Oui.
Une voiture qui n'est certainement pas révolutionnaire, mais compte tenu de son prix et de son format idéal pour bien des acheteurs au Québec, je pense que ça va connaître un succès monstre.
Une offensive très sérieuse de la part d'un constructeur chinois. Là.
Bon, alors, quelle sera la perception, la réception du public sur un produit qui vient de Chine, de marque inconnue, qui doit se prouver, mais qui, à première vue, est fort convaincant? Il ne faut pas oublier que Hyundai, qui était inconnu de tous lorsqu'ils sont débarqués au Canada fin 1983, après 24 mois, ils avaient vendu plus de 100 000 voitures au pays. À cette époque-là.
Mais comme on n'avait pas des véhicules de la qualité qu'on...
Non, mais c'est-à-dire à quel point...
Oui, l'offensive initiale a été très forte, puis ça s'est essoufflé un petit peu par la suite.
Ça s'est essoufflé, mais ce que je veux dire, c'est que si Imperium Motors, avec les produits qu'on compte amener prochainement...
Oui.
Est sérieux dans son approche.
Et qu'on est capable de livrer aussi.
Ben,
hein?
C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire ça prend des véhicules, ça prend des concessions, ça prend un service après-vente qui est efficace. Si tout ça est fait, il va falloir qu'on réalise dans l'industrie automobile que tu as un producteur de Chine qui est indépendant et qui peut fabriquer ses véhicules sans contrainte parce qu'on fabrique aussi ironiquement les puces électroniques. Il va falloir qu'on réalise que, il y a quelque chose qui est en train de se passer puis on est en train de se faire couper l'herbe sur le pied. Parce que son président, Christian Dubois, nous mentionnait avoir la ferme intention de vendre 2500 véhicules au Canada la première année. Ce qui me semble, si la production est possible, ça me semble très conservateur, honnêtement.
Et pour lui, la production ne semblait pas un enjeu, parce que je lui ai posé la question, je lui ai demandé si demain matin, on en commandait 10 000 unités, qu'est-ce qui se passerait? Il dit, on m'en livrerait 10 000. Donc, de son point de vue, la production et la distribution semblent même pas un enjeu. Donc, ce sera très, très intéressant à suivre dans les prochaines semaines et prochains mois, parce qu'on entend livrer les premières unités au tournant de la prochaine année. Là.
En fait, fin décembre, oui. Mi-fin décembre, et faut pas oublier que lundi dernier, lorsqu'on a mis le véhicule à l'essai, il n'était toujours pas homologué pour le marché canadien. Le véhicule que j'ai conduit ne rencontrait pas les standards de Transport Canada encore. Alors, c'est supposé se faire incessamment, mais je trouve que la période est très courte entre l'homologation et l'arrivée d'un véhicule de production sur le marché chez des juste concessionnaires qui n'existent pas.
Juste obtenir un passeport, c'est quoi, 6 semaines, là? Donc, homologuer une voiture...
Tu parles du camion ou du passeport?
Non.
Parce qu'un Honda passeport, c'est plus long que ça.
Oui, c'est plus long que ça, mais c'était une comparaison de bureaucratie fédérale, là.
Oui.
Parce que c'est Transport Canada, finalement, qui appose son sceau final. Donc,
Dis-tu à suivre?
À suivre.
À suivre. Et puis, oublions pas que le week-end prochain, c'est le Salon du véhicule électrique, mais cette fois du côté de Québec.
Oui.
Et puis après ça, il y aura celui plus tard en octobre du côté de Saint-Hyacinthe, comme quoi les Salons du véhicule électrique, c'est parti, là.
Et on reviendra dès le printemps prochain à Montréal pour le Salon du véhicule électrique. On va reprendre là le moment de l'année qu'on avait initialement choisi. Donc, on va avoir là en 8 mois 2 salons à Montréal. Là.
Bon, en attendant, quelques mots sur l'épisode de Rouleau suivant d'aujourd'hui, en fait.
Oui.
Alors, c'est le troisième épisode de la série. Ça se passe avec une Kia Rondo, donc ce n'est pas le plus excitant des véhicules de la saison, c'est certain.
Une voiture extrêmement spacieuse.
Une voiture très pratique et qui le sera pour notre gagnante, parce que le show se fait, autour de la voiture, mais également autour de la gagnante qui est super excitée. Vous allez la voir twerker sur le véhicule, vous allez la voir sauter dans les airs.
Est-ce que tu l'as accompagné dans cette session de twerkage?
Je n'ai pas de talent à ce niveau-là, Germain.
J'aurais bien vu ça, moi, en bloopers, Antoine, twerker sur une Kia Rondo.
Il y a quelques bloopers, mais le twerk n'en fait pas partie.
Dommage.
Alors, allez voir ça, évidemment, sur TVA Sport 2 cette semaine comme première diffusion. Ça sera tout au long de la semaine en rediffusion sur TVA Sport. Sinon, ma page YouTube, ma page Facebook, le site du Guide de l'auto, donc qui conséquemment est aussi le site auto du Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous pouvez le voir sur Autopassion. Et allez aimer la page Facebook de Rouleau suivant pour avoir un peu plus de détails et un peu de suivi sur cette émission-là.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, un peu plus tôt cet été, j'ai mis à l'essai la Toyota GR86, donc la nouvelle génération de ce petit coupé sportif chez Toyota. Une voiture qui portait le nom Sion FRS, qui a porté le nom Toyota 86. Et là, on a l'air enfin décidé, on l'appelle la GR86. Donc, c'est tout un choix de nomenclature. Une voiture qui est la jumelle de la Subaru BRZ, hein, et ça l'était et ça le demeure. Et la grande nouveauté pour 2022, c'est son choix mécanique. Donc, par le passé, on avait une mécanique développée par Subaru principalement, moteur 4 cylindres à plat de 2 litres. Mais là, on passe à 2,4 litres, toujours à plat. Et c'est vraiment... c'est toute la différence qu'on retrouve. C'est toute la différence qui était nécessaire parce que par le passé, c'était une voiture très équilibrée, très agile, très plaisante à conduire, mais il manquait un petit quelque chose.
Mais je trouve que la 86 BRZ, appelle-la comme tu voudras, c'est une voiture qui n'avait pas pris beaucoup de rides. Toujours très amusante à conduire, mais c'est vrai que sur le plan mécanique, ça manquait surtout de couple.
L'habitacle n'était pas ce qui était de plus joli ou moderne.
Il n'a jamais été le cas, d'ailleurs.
Non, c'est ça. Même quand c'était sorti, c'était rien d'exceptionnel.
Ça se vendait en bas de 30 000 $, là.
Sur le plan plan financier, c'est intéressant, mais on se rappelle aussi qu'à 30 000 $ on avait une 370Z. Donc, c'était...
De base, avec un radiocassette.
Avec un radiocassette,
oui. J'exagère, mais à peine.
Mais à peine. Donc, et d'ailleurs, on n'a toujours pas vu l'échelle de prix pour le modèle de nouvelle génération. Donc, j'imagine que ça arrivera bientôt. Et on nous avait promis les premières unités pour le mois d'octobre. Encore là, c'est la semaine prochaine. Ce sera à suivre, ce qui est une drôle de stratégie, si tu veux mon avis, parce que pour le Canada, c'est le vent d'une voiture sport à roue matrice arrière à partir de l'automne avancé, puis pendant l'hiver. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial, là, on s'entend.
Mais ce que dis, c'est que c'est quand même une voiture bien amusante, pas mal plus amusante qu'avant à cause de son moteur.
Et voilà. Tout ce qui lui manquait, ce petit manque de puissance, on ne le retrouve. Il n'y a plus de manque de puissance. On est à 228 chevaux. C'est 23 de plus qu'auparavant.
Mais c'est le couple.
Et voilà. Donc, elle est mieux équilibrée, un peu moins lente qu'elle l'était auparavant. Mais oui, un petit coup de cœur pour cette voiture-là.
Et tu vois, moi non plus, je manquais pas de puissance cette semaine. J'ai mis à l'essai la BMW M3 en version berline et avec boîte manuelle.
Une vraie voiture de puriste, là.
Alors là, j'ai adoré ça. Et je t'avoue, j'ai croisé quelques M4 sur la route au moment où je conduisais ma M3. J'ai l'impression que la M4 se vend beaucoup plus que la M3, du moins pour cette année. Les gens semblent aimer le look du coupé plus que de la berline. Et moi, je te dirais que c'est plus le contraire. L'effet berline traditionnelle avec aile élargie, avec un museau très agressif.
Elle a l'air plus condensée aussi comme voiture.
Alors, elle rappelle un peu la M2 coupée,
ouais.
Ce que j'aime beaucoup au niveau de son look. C'est très tronqué comme design. Alors ça, j'aime
bien
ça.
Parlant de look, il y a quelque chose en avant aussi.
Oui, c'est ça. Il y a des naseaux gigantesques. Là. En fait, je trouve ça disgracieux sur des coupés de série 4 réguliers. Mais dans le cas des M3, M4, on dirait que ça m'achale moins.
Okay.
Parce que la vocation de cette voiture-là, elle est d'être agressive et, disons que ça passe pas inaperçu, mais ça choque moins l'œil que sur une voiture qui est plus classique au niveau de son design et qui a des gigantesques grilles disproportionnées. Alors, pour moi, ça m'achale moins. Maintenant, je te dirais que côté conduite, bon, la boîte manuelle, c'est toujours aussi savoureux chez BMW et je t'avoue que jamais tu me vendrais une boîte double embrayage. Oui, c'est plus performant. Oui, c'est technologiquement.
Mais on ne recherche pas que ça. C'est le plaisir derrière la voiture.
Le plaisir de conduire. Cette transmission-là est bien étagée. L'exercice du talon pointe, pour ceux qui connaissent, ça se fait facilement avec cette voiture-là. Elle répond au doigt et à l'œil. C'est précis, c'est solide.
Au doigt et à l'œil et au talon.
Et au talon. Et c'est pas trop inconfortable non plus. C'est pas trop inconfortable parce que je me suis rendu à Québec avec la voiture et honnêtement, ça ne te fait pas souffrir. Ce qui n'était pas le cas de l'ancienne génération qui te brassait pas mal plus. Signe qu'on a travaillé beaucoup sur la rigidité structurelle et sur le réglage des suspensions pour que la voiture soit plus conviviale. Un coup de cœur, absolument un coup de cœur, mais évidemment à 95 000 $. C'est facile que ce soit un coup de cœur dans ce temps-là. Mais il y en a beaucoup des mauvaises voitures à ce prix-là aussi. Et la M3 en version berline, j'ai adoré.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, cette semaine, on reçoit celui qui était co-porte-parole du Salon de l'auto de Montréal, mais que les gens ont peut-être moins vu parce qu'on pense tous à Bertrand Godin quand il est question du Salon de l'auto. Par contre, ils l'ont vu longtemps, et particulièrement ma génération, à Musique Plus, c'est là qu'on l'a découvert. Puis
ça a duré si longtemps que ma génération aussi, on l'a connu comme ça, Denis Talbot.
Ah oui, t'écoutais ça en reprise, toi.
Mieux connu sous le nom de Monsieur Net.
C'est ça. Alors, Denis Talbot qui est avec nous. Salut, Denis.
Salut, ça va bien? Content d'être là, les gars. Ça fait longtemps que je fais ça, effectivement, puis c'est toujours drôle parce qu'il y a des gens qui vont m'associer aux aventures du Grand Talbot où j'essayais toutes sortes de folies.
Ouais.
Je me pitchais en bas des buildings. C'est là que j'ai rencontré Bertrand Godin, d'ailleurs, puis Il avait gagné le Grand Prix cette année-là à Montréal. Fait que c'était vraiment cool. Ça a été notre première rencontre-là.
Okay.
Et il y en a d'autres qui vont m'associer justement comme Germain l'a fait à Le Chénette. Puis là, c'est la nouvelle génération que d'autres m'associent à Twitch. Parce que Twitch, peu de gens connaissent ça pour l'instant, les plus vieux, mais c'est une station de télé, disons. Un diffuseur qui est sur le web également, puis je suis là-dessus, ça fait 7 ans, puis ça va super bien.
Et on a vu les constructeurs automobiles prendre ce virage-là, un peu de la diffusion en ligne. On peut penser à la dernière génération de la Honda Civic qui a été dévoilée sur la plateforme Twitch. Antoine, qui était dans tous ses états parce qu'il ne savait pas ce qu'était la plateforme Twitch à ce moment-là, mais heureusement, les enfants à la maison ont pu t'expliquer ce que c'était.
Ben en fait, c'est parce que la Civic a toujours suivi sa clientèle. Alors, les gens qui achetaient des Civic au début des années 80, qui étaient dans la vingtaine, ben aujourd'hui, sont dans la cinquantaine et continuent d'acheter des Honda Civic. La voiture a vieilli avec sa génération initiale. Et là, ben on fait un pas pour rajeunir la clientèle, mais c'est pas un pas, on saute de 4 étages. Tu sais, parce que entre Canal 10 puis Twitch, il y a comme un monde. Fait que je me suis dit, on aurait pu faire les choses de façon progressive, du moins.
Ben là, ce qu'on veut, c'est des clients, hein, des clients potentiels.
Ouais.
Alors, ce que tu fais, plus ça va, plus les voitures ont l'air des gros iPhones, tu vois, avec des roues. Là.
Ouais.
Fait que tu vas chercher exactement la niche de gens que tu aimerais éventuellement qu'ils deviennent soit de nouveaux clients ou redeviennent des clients chez vous en leur offrant la technologie dans les autos. Il y en a plein, vous le savez, les gars. Mais Twitch, il ne faut pas se laver, c'est pas juste pour les enfants. Hein. C'est absolument fou. Il y a 13 millions de viewers par jour, là, cette affaire-là. C'est fou.
Les gens ne font pas partie.
Non, ben c'est d'aller chercher ce qui t'intéresse là-dessus parce que tu as vraiment toutes sortes d'affaires. Autant d'automobiles que du tatouage en passant par la cuisine. Tu sais, c'est fou.
Bon. Tu me parles de dernière technologie, Denis. Ben, on va arriver dans le vif du sujet parce qu'évidemment, de la technologie dans les voitures aujourd'hui, il y en a à outrance. Il y en a au point où la façon de faire le métier de chroniqueur automobile n'a pas le choix de changer parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste analyser un moteur, un comportement, une suspension. Il faut analyser ce qu'il y a dans un écran, comment la voiture est connectée. Donc, c'est tout un nouveau boulot qu'on doit faire, nous, et qui ne sont pas nécessairement les plus grands experts en la matière. Ce pourquoi, en partie, on voulait discuter avec toi, parce que t'es au fait des plus récentes technologies que les constructeurs vont intégrer dans leurs véhicules aujourd'hui. Peut-être la première question que j'aurais pour toi d'abord, qu'est-ce qui t'a impressionné particulièrement comme dernière technologie qui a été lancée dans l'industrie automobile?
Tu sais, je fais souvent le parallèle avec les téléphones intelligents et les voitures. C'est pas pour rien. Tu sais, un des trucs qui coûte très, très cher avec les voitures électriques, c'est tout ce câblage dont on a besoin pour se brancher à la maison. Et de dire, OK, genre, ça va me prendre un 7 pieds de câble, un 10 pieds de câble. Ça, c'est du cuivre. Le cuivre n'est pas achetable. Puis là, quand j'ai commencé à lire là-dessus, puis j'ai vu qu'on arrivait avec des technologies qui ressemblaient étrangement à la recharge sans fil des téléphones, c'est-à-dire
ouais.
que par Wi-Fi, tu vas te dire, OK, charge ma voiture. Il n'y a aucun fil apparent. C'est réinstallé dans ta maison. C'est sûr que les coûts risquent d'être assez faramineux pour le moment. Mais à un moment donné, ça va se démocratiser. Et cette recharge sans fil-là, si on pousse ça encore plus loin, et si on habitait dans un climat qui était plus favorable que le climat canadien, que québécois, on pourrait éventuellement penser à des recharges lorsqu'on roule constamment, sans s'en rendre compte sur des autoroutes. Qu'est-ce qui arriverait avec nos cartes de guichet? Probablement qu'elles seraient toutes démagnétisées. Mais quand même, je trouve ça intéressant.
Et notre cerveau aussi, d'ailleurs.
Oui, effectivement. D'ailleurs, tu sais, je suis un grand fan de techno, puis je me demande à quoi auront l'air les prochains conducteurs et conductrices dans 10 ans.
Si on peut encore les qualifier comme ça.
Oui, est-ce que c'est
ce seront des utilisateurs de véhicules plutôt que des conducteurs, j'ai l'impression, là.
C'est exactement ça.
La SAC va émettre des permis d'utilisation.
Mais ça. Soit en arrière, c'est correct.
C'est ça.
Bon, mais tout ça, quand on extrapole, puis on regarde les bouchons de circulation, puis tout ça, tout ce qui arrive, puis on voit les tests qui sont faits. Il y en a eu récemment en Allemagne avec des voitures, tu sais, qui se conduisent seules. Ils ont simulé vraiment l'heure de pointe avec beaucoup de voitures qui roulaient en circuit fermé.
Ouais.
Et des voitures qui attendaient pour rentrer. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bouchons. Les voitures sont d'une courtoisie incroyable entre elles.
Ouais.
Ça laisse passer. Et ça rentre. On prévoit que le camion peut rentrer. On laisse la place. Il n'y a pas de ralentissement majeur. Ce ralentissement-là se calcule tout seul. C'est merveilleux.
Même si tu es en Yaris et que c'est un gros Range Rover noir qui est en avant de toi, il n'y a pas de problème. C'est courtois quand même?
Oui, paraît-il. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai une Prius, OK? C'est pas bon. De ma faute. Non, sérieusement, j'adore la Prius. Puis les gros camions là qui te poussent dans les fesses, j'arrive toujours à la lumière en même temps qu'eux autres et ça me fait rire. Parenthèse de vie.
Ouais, ouais. Écoute, c'est le fun parce que là, tu nous parles évidemment de conduite autonome. C'est un sujet dont on parle énormément et j'en discutais avec mon collègue Marc Lachapelle au Guide de l'auto récemment pour en arriver à la conclusion que la conduite autonome qu'on nous annonce, qu'on nous vante depuis 5 ans, c'est probablement le plus gros échec technologique qu'on ne peut pas retrouver sur un véhicule, parce qu'encore aujourd'hui, les constructeurs tentent d'innover, tentent d'arriver avec des technologies.
Et le résultat n'est pas concluant.
Ça marche pas, ça marche pas. J'ai essayé le Super Cruise, je conduis un Pathfinder avec le Pro Pilot Assist NaviLink cette semaine. J'ai eu une Outback avec le système EyeSight tout récemment. Ça fonctionne pas. C'est un système...
Bon, mais c'est pas pratique en ce moment. Ça marche tout croche. Est-ce que tu as eu des near miss? Est-ce que tu as eu des situations où tu as passé proche?
Non. Mais à l'inverse, je te dirais que j'ai eu des situations où il n'y avait rien et le véhicule a réagi pour rien.
Voilà. Donc, on va être dans la surprudence, là. Et ce que je trouve un peu dommage, tu as mentionné le système Super Cruise, Antoine. Contrairement à Tesla, qui va le système va s'adapter à son environnement, à la route, et va lire la route au fur et à mesure, le système Super Cruise de General Motors, ben il faut que la route soit cartographiée, donc qu'elle fasse partie du système de GM. Et si elle n'en fait pas partie, ben désolé, mais ton option à quoi, 4 ou 5 000 $, ben tant pis, tu peux pas l'utiliser. Reviens sur la 30. Tu sais, c'est à peu près ça là.
Excellent point. Puis ça aussi à la qualité de la mise à jour des GPS qui arrivaient de base dans les voitures il n'y a pas si longtemps. Et souvent, tu te ramasses dans un champ où il y a un nouveau développement qui n'existe même pas dans ta carte. Fait que tu arrives dans le champ, puis ton ordinateur, il ne sait plus où t'amener. Mais je pense que la comparaison qu'on fait souvent, c'est « Regarde, on m'a dit ça, moi. C'est le fun. Les avions ont ça, Denis. Ils rentrent le code, pilote automatique. » Un avion, ça vole en ligne droite. Une voiture, ça se peut qu'il y ait des courbes. Ça se peut qu'il y ait des obstacles. Ça se peut qu'il y ait des arrêts. Tu sais, le couloir aérien qu'on a, il nous est réservé à nous, puis on vole en ligne droite. Oui, il n'y a pas de danger. Il y a des systèmes de détection qui sont implémentés dans les autos, tout le kit. Mais l'hiver, une bonne grosse bourrasque de vent, ça a 20, là, qui se fait lever une espèce de banc de neige qui semble ressemble à un obstacle. Mais j'ai comme l'impression qu'on va se ramasser le nez dans le dash.
Ben, le problème, c'est que des fois, il suffit d'une feuille qui vole au vent pour que ça arrive. Prend pas grand-chose. Puis en plus, ben tu sais, tu vas être d'accord avec moi, du moment qu'il y a un peu d'intempérie et pas besoin qu'il fasse moins 20, ben ces systèmes-là fonctionnent plus du tout. Alors,
donc ça fonctionne dans des environnements de laboratoire, parfait. Dans des environnements parfaits où il ne pleut pas, il ne neige pas, il ne vente pas.
Ouais, parce que tu mentionnes même Tesla, Denis, t'as sûrement déjà essayé la technologie de conduite autonome de Tesla. T'en as pensé quoi?
Moi, j'ai été épaté parce que c'était le soir, on était dans le quartier industriel à Boucherville, on va aller essayer ça. J'ai embarqué, j'ai commencé à rouler lorsque je suis arrivé sur le bord, une espèce de voie de service. C'était merveilleux, on a pris l'autoroute, elle a clignoté, elle a fait ses affaires tout seul. Ben, m'en est, elle te rappelle toujours de mettre les mains sur le volant, ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème. Puis tout d'un coup, ça a arrêté, j'ai pas compris pourquoi. Probablement que la peinture sur le bord de la route secondaire où on était commençait à être usée.
Non, Elon Musk voulait aller se coucher, c'est pour ça.
Probablement. Mais il paraît-il qu'il a engagé un paquet de jeunes enfants qui jouent dans des jeux et ça contrôle nos voitures également. Non, mais blague à part, c'est une belle voiture qui est bourrée de technologie, mais pour le moment, je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ça. Là, on tente de combiner le satellite avec le LIDAR, avec l'espèce d'œil qui regarde tout le temps. Ce combiné-là est intéressant. Mais encore une fois, d'implémenter ça dans les voitures, de lire ça en temps réel et d'ajuster ça à sa conduite puis à la conduite des autres. J'ai hâte de voir si on va arriver à faire ça éventuellement et nous offrir une solution qui va être pratique.
Est-ce que tu crois qu'un jour, on pourra avoir une conduite sur nos routes 100% autonome, sans problème de légifération? Parce qu'évidemment, ça aussi, ça fait partie de la question. C'est-à-dire que si moi, Antoine Joubert, je t'assis dans un véhicule conduite autonome et qu'il survient un accident, est-ce que c'est le constructeur automobile ou le passager du véhicule qui est responsable? Bref, est-ce que tu crois un jour que cette technologie-là va être à point et utilisable à 100%?
Dans un monde réel et utopique, je te dirais oui, si tout le monde est sur le même système. Si tout le monde est dans le même écosystème, puis tout le monde utilise la même technologie. Que si on a de la misère à s'entendre, on a eu de la misère à s'entendre sur le VHS et le bêta. T'imagines dire à l'industrie automobile, on veut avoir un système, l'établir. Et, bon, je pense pas voir ça de mon vivant. Je pense qu'éventuellement, il y a des technologies qui vont peut-être se raffiner. Est-ce qu'on mettra des bornes dans le mobilier urbain pour aider justement à l'orientation de ces véhicules-là?
Ouais.
C'est des dépenses, c'est un paquet de trucs. Est-ce que les voitures vont se parler entre elles pour dire hey, « Écoute, là, va pas sur Saint-Laurent, c'est bloqué. » Tu sais, les voitures taxi, par exemple. Imagine-toi un écosystème fermé comme des voitures de taxi.
Mon moteur est plus gros que le tien. Ouais.
C'est ça. Fait que, tu vois, imagine-toi que si ça jamme à quelque part, que les voitures se parlent entre elles, puis tout ça. Oui, tout ça est merveilleux. Dans les films de science-fiction, on le voit, mais pour l'instant, on dit, il y a loin de la coupe au lièvre.
Quand j'imagine la période de transition, parce que ça pourra pas arriver du jour au lendemain où on va dire, à partir du 1er octobre, les conducteurs auront plus le droit de conduire et toutes les voitures vont être autonomes. Forcément, on va avoir une période où des voitures autonomes, complètement autonomes, côtoieraient des véhicules conduits par des êtres humains. Donc, juste de gérer ces deux environnements-là, c'est pas nécessairement évident et ça doit pas être facile à programmer, là.
Bien, c'est ça, parce que l'humain est difficilement prévisible dans ses actions. De rajouter cet élément-là qui est en quelque sorte le maillon faible de l'équation, ça fait en sorte que ton système est pas parfait. Puis même dans la perfection, il y a de l'imperfection. Alors j'imagine que de rajouter un humain dans cette affaire-là, ça vient mettre comme l'espèce de grain de sable dans l'engrenage qui va venir faire débalancer tout ça. Mais écoute, c'est de la gestion, c'est beaucoup de trucs, c'est beaucoup de prévision futuriste un peu. Souviens-toi, en l'an 2000, on était supposé de voler. je sais pas où on s'en va exactement avec tout ça. Je sais que les gens travaillent énormément sur les nouvelles façons de mouvoir ces véhicules-là. Est-ce que la conduite autonome, la recherche est aussi intense qu'elle l'a déjà été il y a peut-être 3, 4, 5 ans?
Oui, ça, c'est une bonne question aussi, parce qu'on a peut-être l'impression que, justement...
On déchante,
oui, exactement.
On a entendu parler en tabarouette quand le monsieur s'est tué dans Tesla, hein, voyez-vous. Puis il y a beaucoup de lobbying également qui va se faire de la part des compagnies qui ne veulent rien savoir de ça pour l'instant. C'est politique, c'est social, c'est de demander à des gens qui ont de la misère à rouler à une vitesse raisonnable, souvent, de rentrer dans les rangs. C'est tough, ça.
On est loin, on est très, très, très loin du but.
Sur un autre volet, Denis, je suis curieux de connaître ton avis. Bon, une question et une sous-question. Qu'est-ce que tu penses des données pavés tactiles qui contrôlent les systèmes d'infodivertissement des véhicules d'aujourd'hui? Je vais te donner un exemple, un Acura RDX. On va avoir l'écran à la droite sur la planche de bord. Et pour le contrôler, ben on va avoir un pavé tactile sur la console plutôt que d'avoir un écran tactile. On va retrouver ça chez Lexus aussi, bien qu'on soit dans une transition pour rendre ces écrans-là tactiles. Est-ce que toi, tu es en faveur de ces écrans-là avec un pavé tactile ou le bon vieil écran tactile lui-même, c'est préférable?
Moi, je préfère... Je vais être peut-être un peu réactionnaire, mais le bon vieux Python qui m'offre une interaction directe. Écoute, je fais des tests, on appelle ça du UX, là. Je fais des tests pour des produits, et souvent, on arrive avec des produits qui ressemblent étrangement au iPhone et iPad de ce monde, avec... t'as pas de rétroaction quand tu pèses dessus. Si tu veux changer ta radio, ben normalement, faut que tu quittes les yeux, ou à moins d'avoir un écran... être display dans l'écran d'affichage peut-être autre, pour voir tes stations de radio. Mais il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir une rétroaction quand tu fais une action. Et là, plus ça va, on s'en rend compte dans le domaine technologique, c'est que on ramène les pitons tranquillement pas vite. Les bons vieux boutons qu'on tourne. Puis
physique, là.
Exactement. Donc, il y a une technologie qui existe qui fait une légère rétroaction sur ton doigt pour te montrer que c'était bel et bien sur le bon icône, sur la bonne patente. Ça fait que ça, c'est intéressant. Ça fait comme une vibration en dessous de ton index lorsque tu conduis et puis tu sens que t'es dessus. Est-ce que c'est aimé? Dans les tests qu'on a fait, je vais peut-être vous dire ça, mais les gens préfèrent d'avoir une rétroaction plus physique, quelque chose qui leur permet vraiment de savoir s'ils sont au bon endroit sans avoir à quitter la route des yeux.
Mais tant mieux.
Je trouve ça intéressant. C'est pas parce que ça fonctionne dans une technologie qu'on doit absolument l'adapter dans les voitures ou ailleurs. Tu sais, il y a des trucs qui sont, me semble, plus faciles à faire lorsqu'on a un piton physique.
Tu retrouves aujourd'hui dans des véhicules des écrans où, ben, de toute façon, tu as des constructeurs automobiles qui font une lutte à savoir qui aura le plus gros écran l'année prochaine.
Et le nombre d'écrans aussi, pas seulement le plus gros, la quantité à bord.
C'est chez Cadillac, tu as plus de 75 pouces d'écran dans un Escalade. J'ai essayé récemment un Jeep Grand Wagoneer avec 8 écrans dans ce véhicule-là. Calcule ça comme tu voudras, ça n'a juste aucun bon sens.
Alors, t'as deux yeux.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Ça va arrêter où, ça, cette histoire-là?
Ça va arrêter quand on va se rendre compte qu'il y en a un qui a pogné le champ parce qu'il jouait, il checkait pas ses affaires. J'en vois souvent dans la circulation, à un moment donné, qui regarde des films pendant qu'il conduit. Il y a un peu de cocologie là-dedans aussi, si le conducteur doit faire sa part. Mais effectivement, ça peut être extrêmement distrayant. J'adore les pitons, j'adore les affaires, j'adore tout ça, ces trucs-là. Quand tu as une voiture qui conduit tout seul, dans un monde hypothétique, t'as le meilleur des mondes, la voiture t'envoie des informations, tu peux lire ton journal, mais c'est pas toi qui conduis, c'est la voiture qui, t'es là, t'es assis, t'es passager, tu peux regarder tes codes de la bourse à gauche, Netflix à droite, puis jouer à un jeu de console dans le centre, si tu veux. Mais pendant que tu conduis, c'est distrayant. Et ça, encore une fois, on m'a rappelé une chose, la question dans un brainstorm qu'on a fait. En fait, c'est un focus group. Ouais, mais écoute, les pilotes d'avion, ils ont bien les écrans, eux autres, en avant d'eux. Ouais, si on parle des patates avec des patates,
c'est ça.
Pas la même affaire. C'est pas pareil. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. J'aime ça, l'information qui est divulguée, tout ça. Mais est-ce que c'est une source de distraction? Oui.
Écoute, je me permets de te dire que j'étais récemment dans le trafic. Ça arrive à peu près jamais. J'étais stationné sur l'autoroute 13 et le VUS qui était en avant de moi avait 3 écrans de cinéma abaissés à partir du pavillon. Et je te le jure, c'est un film que je connaissais, que je reconnaissais. Et parce que je le connaissais assez bien, parce que moi aussi, j'ai eu des enfants, j'entendais les paroles à travers mon pare-brise et la vitre, la lunette arrière du camion en avant, puis j'écoutais un film.
T'sais. C'est plus dur de lire les sous-titres, par exemple.
Oui, mais tu sais, c'est te dire à quel point, si moi, j'étais capable, dans mon véhicule, de voir le film de l'autre véhicule, je fais juste m'imaginer le niveau de distraction puis l'intensité de diffusion qu'il y avait dans ce gros camion-là. Je me souviens même plus du modèle, c'est ça le pire. Je me souviens même plus.
T'étais concentré sur le film.
J'étais concentré sur le film, vraiment. Mais,
est-ce qu'il meurt à la fin? Le personnage dans le film, pas le conducteur.
Aucune idée.
Mais effectivement, mais... c'est une source de distraction incroyable. Écoute, même souvent, quand on est parti en camping, d'autres cet été, j'avais deux enfants en arrière, puis là, c'est ça qu'ils jouaient dans le système de son. Puis à un moment donné, il y a une chanson, puis chantait.
Puis bon, c'est ça.
Là, tu dis, t'as le dormir. Imagine-toi le regarder en même temps. En tout cas, moi, c'est peut-être parce que, je sais pas, je suis peut-être un TDAH, mais je suis pas capable de faire les deux en même temps. C'est compliqué, c'est complexe, puis ça peut être dangereux, surtout lorsque tu conduis à haute vitesse sur les autoroutes.
Un petit peu.
Depuis quelques années, Denis, un de tes rôles, c'est d'être porte-parole du Salon international de l'auto de Montréal. Il n'y a malheureusement pas eu d'édition 2020 pour des raisons bien connues et hors de notre contrôle à tous, mais il semble être prévu qu'il y aura une édition en 2021. Est-ce qu'on a une idée à quoi ça ressemblera?
Tu veux dire en 2022.
2022, oui, 22, pardon. Ouais, oui.
Non, y a pas de problème, j'avais compris. Mais écoute, oui, il y aura un salon. Est-ce que je peux vous en parler? Non, pas pour le moment. Mais je sais qu'on travaille fort, les organisateurs travaillent fort, justement, à mettre sur pied avec les normes sanitaires, tout ça. C'est tout un casse-tête, je vous le dis. Autant pour nous que pour les concessionnaires, pour les fabricants également, qui doivent trouver une façon de se déplacer. Quelle forme ça aura? Est-ce que ça sera une forme hybride? Est-ce que ça sera de la forme conventionnelle, c'est-à-dire se déplacer? Ce que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est le fun de voir les véhicules, puis s'asseoir dedans, puis j'adore ça. Moi, c'est ma job. Je suis pas un gars de moteur, les gens. Qu'est-ce que tu connais d'un char? Je connais pas les voitures, je connais pas les moteurs. Je connais ça comme n'importe qui, mais je suis pas un spécialiste du moteur. Mais par contre, m'asseoir, regarder l'ergonomie de la voiture, trouver ça le fun de dire, regarde, telle affaire, ça, c'est le fun, ça, c'est bien. De voir apparaître les... Tu souviens, toi, quand on avait apparaître les caméras de recul dans les gros modèles de luxe, c'était fantastique. L'année d'après, Hyundai arrive, bang, il y en a partout. T'sais, de voir ces affaires-là, puis être capable de voir ce qui s'en vient aussi, c'est ça qui me branche, moi. Mais cette année, est-ce qu'on va voir ça au salon d'auto de façon physique ou en version hybride? Le temps sera nous le dire, mes amis.
Moi, je me permets peut-être te poser la question différemment, excuse-moi. J'ai parlé, moi, à des gens qui travaillent directement chez des constructeurs automobiles qui, évidemment, ont vu leur budget publicitaire ou de promotion gonfler l'année passée parce qu'il n'y a pas eu d'événementiel. Et ils se sont rendus compte qu'en utilisant une partie de cette même enveloppe budgétaire-là pour faire des événements ciblés ou mettre davantage de publicité sur des réseaux sociaux, le retour sur investissement était de beaucoup supérieur. Alors, il y en a qui m'ont carrément dit, pour nous, constructeurs automobiles au Canada, un salon d'auto, ça n'a plus de logique. On n'a pas l'intention de retourner là. Mais si les concessionnaires, eux, veulent se joindre ensemble, créer un petit conglomérat de je ne sais pas combien de concessionnaires et y aller par eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs constructeurs automobiles qui devaient débourser des sommes démentielles pour être présents là-bas.
Oui,
parce qu'il ne faut pas oublier un truc aussi, je me permets de mentionner que de louer un emplacement au Palais des congrès avec tout ce que ça implique de...
Pendant presque un mois, hein, du début de l'organisation jusqu'à la fin du démontage, là, ça s'étire sur presque un mois.
Ça implique la location des accessoires que tu es obligé de prendre là, payer le gardien de sécurité qui travaille là-bas, etc., etc. Ça coûte tellement cher, les constructeurs automobiles ont fait, ben non, cette dépense-là ne vaut plus la peine. Est-ce que tu penses qu'une organisation comme le SIAM est capable de réussir à convaincre à nouveau des constructeurs automobiles qui ont déchanté de revenir faire un tour au salon? C'est pas évident, ça.
Moi, je pense qu'effectivement, ça coûte cher, c'est sûr. Ça coûte extrêmement cher. Puis cette maudite pandémie-là nous a permis donc d'explorer de nouvelles avenues. On est devenus très créatifs.
Ouais.
Autant dans le monde des constructeurs que dans un autre monde que dans lequel je gravite, c'est-à-dire le monde du jeu vidéo.
Ouais.
C'était la même chose. Les gros salons coûtaient des millions. Un kiosque, là, ça, pour 3 jours, 4 jours, c'était à 14-15 millions de dollars, tu sais, pour accueillir des gens, pour venir faire un tour, tester tes jeux. C'est un peu la même chose qui se produit. Donc, on s'est rendu compte qu'avec moins de cash, on pouvait arriver à créer des événements qui centralisait la plupart des journalistes qui n'étaient pas éparpillés, pas obligés de partir à courir, aller à gauche et à droite pour couvrir certains événements de certains autres constructeurs. Mais connaissant les gens du SIAM, je sais qu'ils sont quand même très créatifs et je pense que la formule qu'ils vont nous proposer risque d'être intéressante parce que nous aussi, on peut s'adapter. Comprenez-vous?
Oui, absolument. Et l'autre donnée, c'est que, le salon de l'auto est un outil marketing pour les constructeurs automobiles dans le but de vendre des voitures. Mais en ce moment, on fait face à un problème de pénurie. Les cours de concessionnaires sont vides. Donc, est-ce que c'est pertinent de dépenser d'importantes sommes pour vendre des voitures qu'on n'a pas finalement, là?
Les pièces, il en manque, c'est fou. Par contre, on peut peut-être, en focalisant l'attention sur telle journée, un participant, un fabricant ou un autre, on peut parler de ce qui s'en vient au niveau technologique, les avancées au niveau des moteurs. Vous avez la chance...
Pour en faire une vitrine, là.
Exactement, faire une espèce de vitrine pour en présenter. C'est sûr que de faire ce qu'on a déjà fait, c'est sécurisant parce qu'on sait comment ça marche. Mais d'arriver dans une nouvelle formule qui est quand même nouvelle et inconnue pour les gens qui vont travailler là-dedans, ça risque d'être un challenge pas mal intéressant. Je suis pas mal sûr que les gens du SIAM vont relever le défi.
Et puis, j'ajouterais aussi que si tu obliges des concessionnaires qui sont en compétition à travailler ensemble, là aussi, il y a un défi parce que dans la grande région métropolitaine notamment, tu as des gros groupes de concessionnaires qui ne sont pas nécessairement les meilleurs amis du monde et qui n'auront pas le choix que de se jumeler pour une possible association.
C'est de mettre un peu d'eau dans leur gaz.
Oui, c'est ça. C'est ça. c'est vraiment pas évident comme formule, en espérant bien sûr qu'on trouve une solution, parce que on s'en est rendu compte au Salon du véhicule électrique la semaine dernière, on s'ennuie des salons, les gens étaient là, étaient heureux d'être présents, malgré ce que ça impliquait de se déplacer dans ce salon-là où la construction bloquait à peu près tous les accès au stade olympique. Ça ne pourra jamais être pire qu'au Palais des congrès, Marc Bain. Mais bon. Écoute, en terminant, Denis, on peut t'entendre où, on peut te suivre où, que fais-tu maintenant? Parce que tu me parlais de Twitch tantôt. Désolé de ne pas être abonné à ça, mais je sais que tu es ailleurs aussi, là.
Ah, écoute, je suis à Planète Techno. On parle bien sûr de jeux vidéo, de technologie à Explorant. Twitch, effectivement, c'est ma plateforme en ce moment. Je diffuse sur Facebook, un peu comme tu fais. Je me suis rendu compte également que sur Facebook, les gens s'ennuient. Ils veulent en savoir davantage sur la techno. Je le vois dans tes lives, toujours plein de monde qui ont plein de questions à te poser. Ben, moi, je vis la même chose, mais au niveau techno puis jeux vidéo aussi également. Donc, c'est le fun de voir ça. Puis, je me suis monté un studio fou. Là. Ça fait 7 ans que je roule chez nous. J'ai 9 caméras d'installer. Avant la pandémie, les gens s'assoyaient, venaient jaser de jeux vidéo, de techno chez nous. Mais avec la pandémie, on a changé notre fusil de bord. On s'est dit, garde, moi aussi, je vais m'adapter, je vais aller sur le web. Fait que, mettons que tu veux faire une entrevue avec moi, on l'a déjà fait d'ailleurs, Antoine, et on jase avec les caméras, tout ça, on enregistre ça, puis ça peut donner une émission qui est pas mal cool. Puis les gens sont habitués à ce format-là maintenant. Même, je peux prendre quelqu'un qui est sur Teams, puis jaser avec quelqu'un sur Zoom, ce qui se faisait pas avant. On s'est raffiné, on a développé de la technologie, qui un jour, je vais peut-être mettre ça sur le marché. On est en rodage en ce moment, mais ça sonne super bien. Fait que peu importe de quelle plateforme tu me parles, moi je peux te mettre en onde en 1080p, même en 4K, on est prêt. Faut s'adapter ou mourir.
En ce que Denis nous mentionne, Germain, oui. Et notre cellulaire fixé dans la grosse brune, il y a un monde de différence. Alors, ça serait, j'irai voir ça, un de ces quatre, Denis, ton installation, histoire de m'intimider encore davantage. Merci énormément d'avoir pris le temps, Denis. Et puis, évidemment, on invite les gens à aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Puis, en attendant, ben, en espérant te retrouver au Salon de l'Auto d'ici quelques mois.
Merci, Denis.
Merci. On va se retrouver, c'est sûr. Attention à vous autres. Merci
beaucoup. Ça marche. Bye-bye.
Salut.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, je te lance en rafale quelques questions. On a Olivier qui nous a écrit, il est propriétaire d'une Mazda 3 2018. Le concessionnaire lui mentionne que le nettoyage des injecteurs du moteur de sa voiture serait à faire. Elle a parcouru jusqu'à présent 105 000 km. Le guide d'entretien ne fait toutefois pas mention de ce nettoyage d'injecteurs. Est-ce que c'est absolument nécessaire de procéder à ce service?
Bon, une Mazda 3, c'est un véhicule qui a un moteur à injection directe de carburant avec un très haut taux de compression. Mazda, ironiquement, ne recommande pas nécessairement l'utilisation d'essence super, même si dans les faits, ça ne peut qu'être bénéfique. Et après 100 000 km, surtout si vous n'avez roulé qu'avec de l'essence ordinaire, c'est certain que vos injecteurs sont encrassés. Et c'est certain que vous perdez actuellement en performance, que votre voiture consomme plus qu'à l'habitude et qu'un nettoyage d'injecteur, ça ne peut qu'être bénéfique et permettrait de prolonger la vie de votre mécanique si, évidemment, vous avez l'intention de l'étirer dans le temps.
Donc, alors, le concessionnaire, lui, c'est pas forcément
non,
de lui en passer une petite
pas.
Vite, là.
Maintenant, évidemment, ça dépend des forfaits. Il y a des gens qui vont charger 400 $ pour ça. Il y a des gens qui vont vous charger 80 $ Moi, je pense que un prix raisonnable, ça peut quand même se situer autour de 200 $ maximum. Mais un bon nettoyage d'injecteur à 100 000 km, c'est, je vous dirais même que c'est plus que nécessaire, surtout sur des voitures qui ont des systèmes à injection directe comme la Mazda 3.
Merci Antoine. On a Philippe qui prévoit changer son GMC Canyon 2018 pour un VUS. Il a besoin d'espace pour ses deux enfants et un chien de taille moyenne, précise-t-il. Il désire avoir une capacité de remorquage d'au moins 3500 livres. Son budget oscille entre 20 et 30 000 $. Il magasine sur le marché d'occasion. Quelles options s'offrent à lui? Il essaie autant que possible d'éviter la marque Hyundai.
Bon, OK.
Évidemment, pourquoi pas Hyundai? Bonne question.
On ne sait pas. Mais bon, entre 20 et 30 000 $ pour un VUS qui ne serait pas trop âgé, parce qu'il faut quand même mentionner qu'il y a un 2018, je vous dirais que il n'y a pas grand-chose avec un moteur V6 dans les compacts, mis à part un Jeep Cherokee qui pourrait faire le travail, ouais. Ou possiblement un Mitsubishi Outlander à moteur V6.
Avec le 3 litres?
Avec le moteur 3 litres, et c'est une mécanique très, très fiable. Mm-hmm. Un véhicule...
C'est un peu archaïque, mais
c'est archaïque,
c'est
sur le plan technologique, mais vous allez avoir une balance de garantie. C'est un véhicule très fiable. Ça consomme raisonnablement et vous allez avoir de l'espace pour votre famille. Plus qu'avec le Jeep Cherokee, qui est peut-être un petit peu plus intéressant au niveau du look et même de la conduite avec son V6, mais avec lequel vous aurez moins d'espace. Alors, dans le segment des compacts, vous auriez ces deux options-là. Sinon, il faut grossir, aller dans le segment des intermédiaires, mais là, vous allez vieillir également, puis il y a des véhicules qu'on ne veut pas toucher. Je pense, par exemple, à un Murano. Vous ne voulez pas un Nissan Murano avec une transmission CVT qui
va
garantie.
Briser, oui.
Alors, tu sais, c'est ça. Alors, le défi, parce que votre budget est quand même assez limité par rapport à ce que vous recherchez. Je comprends que ce que vous voulez faire, c'est faire un change pour change avec votre GMC Canyon. Sachez cependant que votre véhicule vaut son pesant d'or. Les Canyons sur le marché d'occasion actuellement, ils valent très cher, ils sont très recherchés. Il n'y en a pas. Alors, avant de le donner rapidement à un concessionnaire qui vous offrira un montant dérisoire, ben prenez le temps d'évaluer combien votre véhicule vaut, parce que peut-être que vous allez en avoir plus que ce que vous pensiez. Et là, ça vous permettrait peut-être d'aller chercher un VUS de taille intermédiaire, un Honda Pilot, par exemple, usagé de quelques années, et que vous allez payer 30 à 35 000, peut-être un peu plus que votre budget, mais qui vous permettrait de...
Et qui répondrait mieux aux besoins, finalement, aux
besoins
initiaux.
Absolument, absolument. Puis même chez General Motors, bon, ils n'ont pas les véhicules les plus impressionnants, mais un GMC Acadia avec un 3.6, la même mécanique que ce que vous avez dans votre Canyon, vous allez avoir ça pour un prix très raisonnable. Ce n'est pas le véhicule le plus impressionnant au monde, mais pour remorquer ce que vous avez besoin de remorquer et pour vous offrir un rendement efficace au quotidien, ça peut quand même est une option intéressante.
Merci Antoine, une excellente semaine à toi.
Pareillement.
Cube Radio.